Salon anticolonial et antiraciste, édition 2023, la parole est rampe.
Des plateaux radio installés, entre tables rondes, échanges et projections de films, découvrez nos podcasts.
Donc, toujours depuis le salon anticolonial et antiraciste, et Porte de Montreuil. Et nous sommes donc avec Clarisse. Hein. Clarisse, tu es porte-parole des jeunesses autochtones de Guyane, avec Sylvain du CSIA. Je te laisse te présenter.
C'est le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. C'est une association qui a été créée en 1978 pour accompagner les mouvements autochtones dans les Amériques. Et en fait, c'est par ce biais-là qu'on travaille vraiment main dans la main avec Jeunesse autochtone de Guyane et le mouvement autochtone en Guyane depuis les années 80 et donc avec cette nouvelle génération qui maintenant prend le flambeau de leurs aînés.
Et Benoît donc du studio son de La Parole Errante et qui a d'ailleurs mis son matériel à disposition de FPP, du Salon Anticolonial.
Yves, tu as dit que nous étions à Porte de Montreuil, nous sommes à la Croix de Chavaux à Montreuil, à La Parole Errante. Peut-être commencer Clarisse, parce que Sylvain a dit que tu faisais partie de la nouvelle génération. C'est vrai que tu es jeune, tu as quel âge ?
J'ai 23 ans.
23 ans, quel a été ton parcours pour devenir militante et te retrouver ici, aujourd'hui, à Montreuil, au Salon Anticolonial ?
Alors, tout d'abord, je vais me présenter dans mon intégralité. Je suis Clarisse Da Silva, je suis de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'ouest guyanais. Je suis issue de la nation Kalinia, il y en a 6 encore en Guyane. 6 nations autochtones, Teko, Wayampi, Wayana, Lokono, Paikone et Kalinia. J'ai intégré le mouvement autochtone quand j'avais 17 ans, donc en 2017, lors des mouvements sociaux qui avaient touché ma région en mars-avril 2017 en Guyane.
C'était quoi ça ?
C'était une grève générale en Guyane, d'abord pour dénoncer énormément de choses au niveau de la santé, au niveau de l'économie, enfin plein de choses qui ne plaisaient plus à la population guyanaise. Et là, le mouvement autochtone a pris une autre ampleur, puisqu'à ce moment-là aussi débutait la mobilisation contre le projet Montagne d'Or, qui était un projet d'extractivisme industriel. C'était l'un des plus gros projets que la Guyane connaissait à ce moment-là, et c'était sur des terres sacrées Kalinia. Donc la jeunesse autochtone a été un des piliers de ce mouvement d'opposition. Et il y a eu le deuxième plus grand rassemblement des peuples autochtones avec les autorités coutumières, les organisations autochtones et les populations autochtones de toute la Guyane. Ça s'est passé en avril 2017 et c'est là qu'on m'a demandé si je pouvais et si je voulais être porte-parole du mouvement de la jeunesse autochtone de Guyane. Donc ce que j'ai accepté. Donc j'ai tenu mon rôle à ce rassemblement aux côtés des autorités coutumières et des organisations autochtones. J'étais la plus jeune, la plus petite, donc c'était quand même assez impressionnant. Et après, tout s'est accéléré, puisqu'il y a eu effectivement cette opposition au projet Montagne d'Or, où la jeunesse autochtone a pris une très très grande place. Ensuite, la JAG, elle a évolué avec deux pôles, un en Guyane et un en France.
Alors, la JAG, c'est Jeunesse autochtone de Guyane.
Et à ce moment-là, sur Paris, les missions étaient complètement dispatchées. En Guyane, c'était beaucoup de travail de terrain dans l'intérieur, beaucoup de rencontres avec les autorités coutumières et les populations. Et à Paris, on faisait tout ce qui était du relais d'information dans les conférences, dans les séminaires, dans les colloques, des formations également. Il y a certains membres qui ont eu des formations avec d'autres institutions et puis d'autres associations. Sur le plan environnemental notamment, puisqu'on était sur le sujet de la Montagne d'Or. Et ensuite, la JAG, elle a réussi, par vote, à intégrer le Grand Conseil coutumier. Donc aujourd'hui, c'est Christophe Yanouana-Pierre, un de nos porte-parole et cofondateur du mouvement, qui siège au Grand Conseil coutumier en tant que représentant des associations et organisations autochtones. Donc le Grand Conseil coutumier est une instance de représentation des autorités coutumières au sein de la préfecture en Guyane. Et ensuite, moi, je suis arrivée à Paris il y a un an et demi. Et il y a un an et demi, j'ai à peu près repris tout le travail qui s'était effectué. Et il y a énormément de choses également qui se passent en Guyane. Donc les autorités coutumières ont aussi besoin d'un porte-parole ici. Et du coup, c'est moi qui prends cette responsabilité aujourd'hui.
Comment tu expliques qu'on t'ait choisi? Parce qu'à un moment donné, tu as dit que tu avais été, qu'on t'avait demandé, que tu avais été choisi comme étant la représentante de la jeunesse guyanaise, de jeunesse autochtone guyanaise. C'est dans ton parcours, c'est tes parents, c'est parce que toi-même, tu as été militante depuis tout jeune?
Mais non, je pense que c'est surtout que j'étais très, très intéressée. Je posais vraiment beaucoup de questions. Et depuis quelques années avant 2017, je me posais encore des questions. Je cherchais des réponses auprès de ma grand-mère, ma mère... Enfin, tous les membres de ma famille, puisque je n'ai pas grandi dans cette culture. J'ai grandi dans un village, mais bon, le système a fait que ma mère ne nous a jamais parlé en langue, donc ce sont des choses qui c'était compliqué. Et du coup, quand on est en quête identitaire, surtout à l'adolescence, ce sont des questions qui sont très très fortes et très très présentes, donc je m'y suis intéressée. Et lorsqu'il y a eu les mouvements sociaux en 2017, je pense que ça a été un déclic non seulement pour moi, qui suis Kalinia, mais aussi pour tous les jeunes qui sont issus d'autres communautés. Où il y avait une très très grosse revendication identitaire, donc je pense que c'est commun à tous les jeunes à ce moment-là. Et moi, j'étais allée sur les barrages, je posais des questions aux autorités coutumières, je posais des questions à tout le monde. Donc je pense que Christophe a vu à ce moment-là un potentiel et je le remercie jusqu'à maintenant. Je pense faire bien mon travail en tout cas, j'essaie de travailler avec tout le monde et voilà.
Moi, je me dis, ce qui m'intéresserait de savoir un peu plus, c'est que tu dis qu'il y a plusieurs peuples en Guyane. Et du coup, au niveau de l'organisation des jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui permet une espèce d'unité ou quelque chose qui, au contraire, accentue... Enfin, comment se fait le commun entre les différentes tribus et notamment chez les jeunes sur les questions... militante sur les questions politiques, sur les questions de... Tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce que... Parce que vous êtes séparés aussi quand même physiquement, territorialement. Comment ça s'organise entre vous, entre les différentes communautés chez les jeunes?
Alors, il y a 6 nations autochtones de Guyane, comme je le disais. Donc, les Kalinia, qui sont dans l'ouest guyanais, qui vont sur le littoral vers Kourou. Il y a également les Wayana qui sont sur le Haut-Maroni, les Lokono qui sont sur le littoral et un peu à Saint-Laurent, à la frontière avec le Suriname, comme nous, les Kalinia. Il y a les Paikwene qui sont sur le littoral également et qui descendent jusqu'au Brésil. Et il y a les Teko Wayampi qui sont sur le Haut-Yapok, à la frontière avec le Brésil. Donc forcément, les problématiques ne sont pas les mêmes concernant tous les peuples. Les Kalinia, les Lokono et les Paikwene qui sont plus sur le littoral seront beaucoup plus intégrés dans la société guyanaise, tandis que les Teko, Wayampi et Wayana qui sont dans les territoires isolés, ce sera vraiment pas le même cas de figure. Donc c'est compliqué pour certains. En tant que porte-parole issue d'une nation Kalinia et qui a accès à pratiquement toutes les formes de communication, j'ai une responsabilité de pouvoir dénoncer ce qui se passe dans les territoires isolés. Et les autres membres de la jeunesse autochtone, il y en a également dans les territoires de l'intérieur, donc qui relaient un peu tout ce qui se passe dans l'intérieur. Et c'est à nous de faire un travail de relais d'information également au niveau régional, mais également au niveau national et international. Quand c'est eux qui ont la possibilité de le faire, ils le font. Ils le font très bien, même. On leur donne aussi la possibilité de s'exprimer devant les institutions françaises dans la capitale, à Cayenne. Mais voilà, les cas de figure sont vraiment pas les mêmes. On a tous des problématiques différentes, et notamment les jeunes de l'intérieur qui ont beaucoup de problèmes d'accès au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau d'infrastructures correctes. Et ils sont aussi les premiers impactés à leur paillage illégal avec la présence de mercure dans les eaux. Donc la pêche et la chasse, c'est quelque chose de pas facile. Et donc voilà, on s'organise, il y a des réunions via le Grand Conseil Coutumier qui est organisé 2 fois dans l'année. Après, il y en a d'autres beaucoup plus en communauté restreinte. Mais il y a des réunions qui se font le plus possible pour pouvoir relever toutes les problématiques que les autorités coutumières de l'intérieur à laquelle ils font face. Et voilà, donc on essaie de s'organiser du mieux qu'on peut, mais il y a également des choses qui ne sont pas comprises... au niveau de tout ce qui fonctionne au niveau institutionnel, ce sont des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est à nous également de prendre le relais à ce niveau-là.
Oui, parce que je crois que les choses sont absolument dramatiques en Guyane, hein, que c'est une situation une situation coloniale dans toute son horreur. Hein. Rappelez quand même que la plus grande frontière terrestre de la France, c'est la frontière avec le Brésil, entre la Guyane et le Brésil, et qu'il y a donc des problèmes environnementaux, tu en parlais, avec la Montagne d'Or, des problèmes identitaires ou culturels, négation d'une culture et destruction d'une culture, enfin, tentative de destruction d'une culture ou d'une civilisation. Et c'est des choses dont tu peux peut-être nous parler via l'école, via qui sont très graves.
Oui, alors il faut savoir que les peuples, là je vais parler pour le peuple Kalinya, le peuple Kalinya a fait face depuis les années 1900 aux homes indiens qui sont des internats tenus par des religieuses à l'époque. Il y en a encore un qui est ouvert en ce moment à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Donc il y a eu des tentatives d'évangélisation, enfin il y a eu de l'évangélisation dans ces homes. Et donc le fait qu'il y ait eu des évangélisations, je vais parler de kidnapping d'enfants pour entrer dans, mm-hmm. dans ces homes, c'est vrai que ça a eu un gros impact sur les générations qui ont connu ces homes, puisque ma mère elle a été dans ces homes et comme je vous l'ai dit, on ne m'a pas appris la langue, c'est parce que le système a fait que elle ne voulait pas nous apprendre la langue parce que le mieux c'était de parler français. Donc inconsciemment, c'est ce qui se passe pour pratiquement toutes les personnes qui sont passées par ces hommes-là. Ils ne apprennent pas la langue à leurs enfants. Je suis jamais allée à la bâtie, je suis jamais partie à la chasse. Il y a très peu de choses que je connaisse, mais que j'essaie d'apprendre maintenant. Donc je pense que ça, à partir de là, ça a cassé quelque chose dans la transmission culturelle. Et ensuite, il y a également le fait qu'on n'a pas depuis ces hommes, valoriser les cultures des peuples autochtones. Et ça se ressent dans la société guyanaise aujourd'hui, où on voit une hiérarchie sociale maintenant dans la société guyanaise, où il y a forcément les Blancs et les Créoles au-dessus, et puis après il y a les peuples autochtones et les peuples Bushnengue qui sont tout en bas, qui sont perçus comme des sauvages jusqu'à maintenant. Donc je pense que le fait qu'on n'ait pas valorisé dès le début ces cultures, alors qu'elles sont très très importantes, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment eu une volonté de taire cette culture, de taire des traditions et des coutumes qui sont ancestrales, qui sont millénaires et qui sont importantes pour le développement de la Guyane aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit. Mais l'importance aujourd'hui, c'est qu'il y a des jeunes qui sont diplômés, il y a des jeunes qui sont intéressés, il y a des jeunes qui se posent des questions. Il y a beaucoup plus de communication, beaucoup plus de dialogue entre les générations. Et donc, on se rend vite compte des choses. Et cette année, c'est vrai que ça a été révolutionnaire dans le mouvement autochtone, puisque cette année, on parle de commission vérité, la mise en place d'une commission vérité pour faire reconnaître l'existence de ces hommes indiens. Mmh. Et au-delà de ça, il y a également des volontés de faire connaître la situation des jeunes de l'intérieur au niveau de l'éducation, puisque les hommes indiens de 1900... influence l'éducation des jeunes aujourd'hui, puisqu'il y a un dispositif aujourd'hui qui est mis en place par la collectivité territoriale depuis 2010 qui s'appelle le dispositif des familles hébergeantes. Donc c'est un dispositif qui est mis en place pour la prise en charge de l'hébergement des jeunes des territoires isolés quand ils partent pour le lycée sur le littoral. Et c'est un dispositif qui est complètement défaillant, puisque lorsqu'il n'y a pas d'affectation dans des familles hébergeantes, des jeunes se retrouvent à la rue. Et en plus d'un souci financier, c'est encore plus difficile. Donc ce sont des choses qui sont... Les hommes indiens et le dispositif des familles hébergeantes sont complètement liés, puisqu'ils font face à la discrimination, à des violences alimentaires, au racisme, à des violences physiques, morales et psychologiques. Et il y a un troisième point également qui est intéressant, c'est faire reconnaître l'existence ou cette partie historique de cette période où il y a eu l'envoi d'une délégation de 32 Kalinyas dans les expositions universelles, donc dans les eaux humains, dans les années 1900. Donc il y a un an et demi environ, une association qui s'appelle l'association Moliko a été créée pour faire reconnaître cette période de l'histoire des Kalinyas et qui essaye de se battre pour la restitution des corps, en tout cas retrouver ces corps-là, puisqu'il y a eu 8 morts à Paris. Et il se trouve que l'association Moliko a pu localiser les corps de 6 d'entre eux. Donc ce sont des choses, maintenant on en parle, mais ce sont des histoires que même des anciens n'étaient pas du tout au courant, ils ne savaient pas où était partie cette délégation. Et c'est que cette année qu'on a des réponses. Donc en fait, il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je pense que là, maintenant, on ne peut plus se permettre de dire ou de ne pas valoriser des cultures, puisque maintenant, on a accès à des connaissances. Et c'est ce qui va changer la chose, je pense.
Comment on a été amené à connaître cette histoire que... Donc, il y a des personnes du peuple Kalina qui ont été transportées jusqu'ici dans des eaux humains. Mmh. Il y en a 8 d'entre elles qui sont mortes.
Oui, c'est ça.
Et ça, ça a été longtemps tu ou ignoré. Comment l'histoire a émergé et est-ce qu'on sait un peu pourquoi ils sont morts et comment le travail de mémoire s'est fait?
On a réussi à avoir des réponses ou de connaître ces histoires parce qu'il y a des archives, puisque la France adore archiver. Donc c'est plutôt pas mal. Mais parce que ce sont des histoires que l'on connaît déjà depuis des années. Mais on n'a jamais forcément posé plus de questions et cherché à en savoir plus. Or, il y a un an et demi, il y a une descendante directe de Molko, qui est une des femmes qui était avec la délégation, qui s'est posé des questions. Parce qu'elle se demandait comment ça se faisait qu'on n'en savait pas plus. Et ce qui est drôle, c'est que lorsqu'elle questionnait sa grand-mère et son arrière-grand-mère, elle lui répondait qu'en fait, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils étaient, pourquoi ils étaient partis et ils ne comprenaient pas trop pourquoi il y avait 8 qui n'étaient pas de retour. Donc, elle a voulu en chercher plus. Donc, elle a eu une convention avec le musée du Quai Branly, avec qui elle travaille depuis un an et avec qui, ben, du coup, elle arrive à avoir des réponses. Donc, il y a un partenariat entre quand même un musée et l'association. Et du coup, ça montre, je pense, une véritable volonté de faire avancer les choses à ce niveau-là. Donc là, on a eu la dernière nouvelle il y a 2 mois où elle nous a annoncé qu'elle a pu localiser le corps de 6 personnes. Il en manque 2 qu'elle cherche encore. Puis il y a des archives, il y a, dans certains livres, on peut en parler des eaux humains. Et puis il y a eu un documentaire aussi qui est sorti également il y a 2 ans. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on s'est posé beaucoup plus de questions. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des gens en Guyane et en France qui ont oublié ou qui ne sont pas du tout au courant de cette histoire. Et là, c'est le moment en fait, d'en parler.
Et tu nous parlais donc du problème de transmission de la culture, de transmission de la civilisation. Et maintenant, est-ce que vous, les plus jeunes qui avez vu vos parents être finalement coupés, vous reprenez le flambeau et est-ce que vous y arrivez et comment vous comptez vous y prendre pour réaliser cette transmission et cette retransmission et cette réappropriation?
Je pense que c'est un des gros défis de la jeunesse autochtone aujourd'hui, des jeunes générations, parce qu'on grandit entre deux mondes, entre le monde traditionnel et dans le monde moderne, donc c'est compliqué. On ne peut pas revenir à un mode de vie complètement traditionnel, ça c'est pas possible, mais je sais qu'on peut faire la part des choses et je sais qu'on peut lier les deux. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'élever nos enfants. Enfin, moi, je ne suis pas encore maman, mais je sais qu'il faudrait que j'élève mes enfants de manière à ce qu'ils soient connectés à la terre directement. C'est ce qui se fait avec mon neveu, c'est ce qui se fait également avec ma nièce. Donc, et ça marche. Ouais. Ça marche parce que moi, j'ai appris à faire les tenues traditionnelles en même temps que ma mère. Ouais. Et j'ai appris également d'autres choses en regardant ma grand-mère faire. Et c'est maintenant qu'on s'y intéresse, donc ça change également les choses. Et j'ai, en apprenant les symboles amérindiens pour l'art corporel, ma nièce l'a appris en même temps que moi. Et un jour, je la vois dessiner dans le sable des symboles que je ne lui avais jamais appris. Et en fait, c'est juste que je pense que c'est très spirituel, mais je pense qu'on l'a guidée dans ce genre de choses. Donc, Depuis petit, quand on apprend, on transmet des choses plus petits, tout se fait automatiquement. Et je pense que ça, c'est ce qu'il faudra changer dans l'éducation et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui, c'est ce qui commence à se faire aujourd'hui. Puis je pense qu'en tant que jeune, il faut qu'on puisse utiliser tous les moyens qu'on a, donc faire énormément beaucoup de communication avec des médias. C'est ce qui se fait au Brésil, c'est ce qui se fait aux États-Unis et c'est ce qui commence à se faire également en Guyane. Donc c'est une chose qui change et. Ça va être compliqué, mais je pense que des petits, il faut que ça se travaille, il faut que l'éducation change à ce niveau-là.
Sur la question de la transmission et de l'éducation des enfants, tu disais, tu parlais de ta maman, tu parlais de ta grand-mère, effectivement, l'éducation, les mères, la tradition, mais aujourd'hui, les questions du genre, les questions de repenser aussi la place des femmes uniquement comme mères ou en tout cas destinées comme mères, j'imagine que vous, les jeunes Guyanais, vous aussi, vous voulez poser, comme un peu tout le monde ici depuis ces années de révolution féministe et de questionnement, etc., du rôle de chacune et de chacun. Je me demandais, entre la tradition et c'est ce questionnement qui nous traverse. Comment ça se fait? Comment ça se discute? Comment ça rentre en conflit? Ou comment ça, Comment ça se fait dans ta tête, par exemple?
Alors déjà, sur la question de la femme, moi, je peux vous dire un truc. C'est, si vous énervez une femme amérindienne, là, c'est mort. Là, je pense que tous les hommes amérindiens pourront vous le confirmer. Donc, au niveau de la place de la femme, nous, ce sont des sociétés très matriarcales. Donc, c'est la femme qui s'occupe des enfants, mais qui les élève, qui les éduque. Mais c'est aussi si la femme n'est pas là, l'homme, il est complètement perdu dans la société kalinia. Donc, c'est complètement complémentaire. Donc, à ce niveau-là, il y a du respect entre les hommes et entre les femmes. Et envers les hommes et envers les femmes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va forcément changer dans notre éducation aujourd'hui. Évidemment, on sera forcément influencé par les questionnements qui sont très occidentaux aujourd'hui, notamment aux questions de genre. Près de ce que moi j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y a pas forcément de soucis au niveau des genres. Et là, je vais parler également de la communauté LGBT. Il n'y en a pas forcément de soucis à ce niveau-là. Et il me semble même que ça n'a jamais porté... Il n'y en a jamais eu vraiment d'importance sur l'orientation d'une personne. Donc à ce niveau-là, on n'a jusqu'à maintenant pas de soucis. Peut-être, on ne sait jamais. Dans toute société, il y a toujours des choses qui sont à discuter. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut mêler tradition et modernité, parfois c'est compliqué sur certaines règles qu'on doit respecter. Et là, je vais parler d'une règle qui va parler à tout le monde, c'est au niveau des femmes qui ont leur menstruation. Par exemple, elles n'ont pas le droit de cuisiner, elles n'ont pas le droit de s'approcher de la cuisine, elles n'ont pas le droit de s'approcher des hommes, elles doivent rester dans un coin. Mais on prend soin d'elles, normalement, on leur fait à manger, il faut qu'elles se reposent. Sauf que quand tu arrives à Paris et que tu as tes règles, il faut quand même que tu te fasses à manger, il faut quand même que tu ailles travailler, il faut quand même que tu ailles à l'école. Donc c'est vrai que c'est une des règles qui est complètement difficile et puis on est au contact avec tout le monde. Donc c'est quelque chose de compliqué, mais je pense que tout est une question d'adaptation à chaque fois.
Bah moi j'ai envie de dire que justement, spécial...
On va quand même te présenter, hein, ouais, Tu es Virginie, donc du CSPCL.
Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. J'avais envie de rebondir parce que je me disais que justement, on doit apprendre. Enfin, du coup, le comité de solidarité, on est né du soulèvement zapatiste en 1994 au Mexique. Les zapatistes qui donc ont revendiqué un certain nombre de choses, mais aussi le fait qu'eux, en tant que peuple indigène, c'est les termes qu'ils utilisent, eux. Ils ont des choses à apporter au monde aujourd'hui. Et donc, justement, dans ce que tu viens de raconter, aujourd'hui, on est en train de se batailler pour avoir un jour de congé au moment de la menstruation, un jour. Et donc, tu es en train de, toi, raconter que dans votre tradition, on prend ça en compte. Et il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre de ces peuples qu'on a mis de côté depuis des siècles et à certaines périodes, certaines régions, plus ou moins en amont. Mais donc voilà, je pense que c'est très important de regarder pas seulement justement la question de la colonisation, mais qui sont ces peuples, leur identité propre, est-ce qu'ils peuvent raconter, est-ce qu'ils ont réussi à préserver. Parce que je pense qu'il y a un phénomène très intéressant et que je trouve essentiel, c'est qu'effectivement, les peuples qui ont été colonisés ont en général mis en place des systèmes de résistance de manière à pouvoir préserver une identité. Et alors, on sait bien que ça s'est modifié, que l'évangélisation a mis de côté des rites, mais en même temps, tu apprends que ces personnes-là les ont quand même préservées et transmises. Donc, il y a plein de choses qui ont évolué, mais même les sociétés traditionnelles, autochtones, comme on dit, ou en tous les cas originaires des territoires sur lesquels ils sont encore aujourd'hui, même s'ils sont très malmenés. Je pense que c'est toute cette identité qui est encore là présente, malgré la volonté des pays dominants de la réduire. Et c'est ce que les zapatistes avaient mis justement en avant dès 1994, en se disant, ils s'étaient cagoulés précisément en disant il ne s'agit plus de nous regarder mais de nous écouter, dans le sens où il y a tout un tas de savoirs et de transmissions justement, pas seulement de génération en génération, mais aussi à tous les autres peuples qui ont été dénaturés en termes d'humanité par ce monde uniforme, capitaliste et marchand qui fait perdre l'essence de ce que c'est l'humain, l'humanité.
Et si on revenait à la question du genre, par exemple, le fait que toi, tu es femme et que tu es porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane, t'es la première femme porte-parole ou en fait, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de la jeunesse? Enfin, tu vois, est-ce que c'est... Parce que, par exemple, encore aujourd'hui, dans les organisations politiques françaises, continentales, enfin hexagonales, il y a encore une immense majorité d'hommes qui sont au poste de responsabilité, de porte-parole, de direction, etc.
Au sein des mouvements autochtones ?
Non, au sein des mouvements politiques de l'Hexagone, quoi. Est-ce que...
De métropole.
Est-ce que c'est la même chose un peu chez les autochtones ou au contraire, c'est vraiment depuis très longtemps?
Déjà, les premiers porte-parole, ce sont les chefs coutumiers. Il y a eu...
C'est des hommes?
Non, il y en a des femmes. Donc, il y a quatre femmes chefs coutumières en ce moment. Et la présidente des chefs coutumiers, ben, c'est une femme. Donc, voilà, ça, c'est dans les premiers porte-parole. Donc, je pense qu'au niveau... du genre, je pense pas que ça pose de problème, en tout cas au niveau des chefs. En tout cas chez les Kalinia, je sais pas pour les autres communautés, mais chez les Kalinia, ça n'a jamais posé de problème. Et même lors du second rassemblement en 2017, où j'ai participé aux côtés des chefs et des organisations autochtones, le chef d'un village, qui est une commune en même temps, le chef de Awala, m'avait félicité pour ma prise de parole et mon intérêt et mon engagement, et qu'il était content de voir une jeune femme prendre parole. Et donc je pense que c'est pas quelque chose qui est mal vu, au contraire ils font que encourager. Et au sein de la jeunesse autochtone, la plupart qui faisaient partie, parce que le mouvement de la jeunesse autochtone est un mouvement d'abord, un réseau, mais pour des besoins administratifs et financiers on a créé une association et dans le bureau ce n'était que des femmes, voilà, des femmes qui prenaient les décisions. Et voilà, donc je pense que c'est aussi beaucoup de complémentarité, où on a besoin de la parole des femmes, on a besoin de la parole des hommes. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes parce que c'est eux qui vont sur le terrain, c'est eux qui vont au front, mais les femmes aussi, elles donnent un travail, elles servent un travail qui est très très important en complément. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et non, il n'y a pas forcément de soucis à ce niveau-là. Au contraire, je pense qu'ils encouragent un peu plus.
Tout à l'heure, tu as parlé de la Montagne d'Or. On en est où aujourd'hui ?
La Montagne d'Or, aujourd'hui, le projet a été complètement enterré. Alors, il a été complètement enterré, mais par contre, on reste sur nos gardes parce que il y a d'autres projets également qui peuvent revenir sur le tapis. Il me semble qu'en 2008, il y avait le projet de la Montagne de Caux. Peut-être que je me trompe sur la date, mais en tout cas, il y a eu le projet de la Montagne de Caux et c'était une mine industrielle également. À ce moment-là, il y avait Christiane Taubira qui était en Guyane à ce moment-là, qui était à la tête de l'opposition. Donc voilà, et puis 10 ans après, il y a un autre projet qui vient sur le tapis. Donc on n'est pas non plus à l'abri d'un autre projet qui va revenir en espérant pouvoir se mettre en place. Donc aujourd'hui, la Montagne d'Or est complètement enterrée, mais on s'attend également à ce qu'il y ait autre chose.
Sylvain, on t'a pas beaucoup entendu ?
Non, je pense que c'est normal, puisque en tout cas avec le CSIA, comme... Pour nous, on est un trait d'union entre les organisations autochtones et donc les représentantes et représentants. Et donc, comme on a le plaisir d'avoir Clarisse avec nous, c'est sa voix qui doit être portée et c'est pas à nous de parler en son nom ou au nom de son peuple. Ce que je voulais juste dire en tant que CSIA, il faut prendre... Nous, on a une organisation qui a été créée donc à Paris pour apporter cette solidarité. Et cette solidarité, en fait, elle est... importante parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact que en France on a encore les traités de libre-échange, les multinationales françaises comme Bonafont qui exploitent l'eau au Mexique, des sociétés qui font du greenwashing, qui actuellement sont en train d'investir en Arizona. Les banques françaises qui se font l'argent sur les énergies fossiles, tout ça, c'est un impact sur les peuples autochtones. Et donc, nous, on est là pour apporter et accompagner les différents mouvements. Et je pense que c'est important de se dire que cette solidarité, elle se fait parce qu'elle est nécessaire. Quand Clarisse parlait tout à l'heure de la restitution des 8 Kalinia qui étaient dans les villages, qui ont été mis dans les eaux humains. et qui sont morts en France. En Kanaky, il a fallu se battre pour récupérer la tête du chef Ataï, et ça a été un combat politique pour récupérer des restes humains. Actuellement, il y a une communauté, on a accompagné une communauté en Argentine pour récupérer des corps qui avaient été volés et officiellement volés et amenés et qui sont actuellement toujours au musée de l'homme. Et donc c'est un combat au quotidien. Le capitalisme s'est créé sur le colonialisme avec les Américains. Avec 1492, c'est le début d'une autre ère, l'esclavage, etc. Et on vit encore les conséquences de tout cela, et encore plus donc les organisations autochtones. Et là, on est au salon anticolonial et c'est une place pour parler de cette réalité. Et notamment, je voulais redonner la parole à Clarisse, parce qu'il y a quelque chose si elle est là aujourd'hui, c'est parce que actuellement, il y a un projet qui s'appelle le projet CEOG en Guyane, qui est un projet de parc photovoltaïque qui est à côté d'une communauté qui s'appelle Prospérité. Et c'est actuellement, il y a une zone autochtone à défendre là-bas. Et je voulais quand même qu'on finisse peut-être en laissant la parole à Clarisse sur ce sujet et sur ce combat.
Alors oui, comme Sylvain le disait, en ce moment, il y a un village qu'on appelle Village Prospérité, à Etopowepe, qui fait face à la mise en place d'un projet qui s'appelle la CEOG, donc Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais. C'est une centrale, c'est un projet à laquelle ils se sont opposés depuis 2018. Et il y a eu des mobilisations, des négociations, des pourparlers avec les institutions, la préfecture, le conseil coutumier. Le chef avait déjà dit non dès le début, malgré les négociations. Et on pensait que ça n'allait pas se mettre en place parce que sinon il aurait fallu l'accord du village. Et ça se met sur des terres en fait, qui appartiennent au village Prospérité. L'opposition a pris une autre tournure et a demandé des mobilisations physiques sur le terrain directement parce que les travaux ont pris les travaux sont apparus sans consultation et sans prévention de la population et du chef. Donc depuis novembre dernier, il y a des mobilisations physiques sur le terrain, donc sur le site de travaux. On a réussi. Il y a eu également l'arrestation du chef. En octobre, fin octobre, il me semble. Et on a arrêté le chef parce qu'on l'a tenu responsable des mobilisations qu'il y a eu sur le terrain, puisque ce sont c'est un terrain privé, puisque c'est c'est sur le territoire du projet.
Quand tu dis « on », c'est l'État français. Enfin, c'est,
oui. Et donc, il a été arrêté. Il y a eu une grosse mobilisation devant la gendarmerie, devant le commissariat. Et c'est à partir de là que c'était le point de non-retour, alors qu'on était ouvert à la discussion et aux négociations. Mais là, ça a été vraiment le point de non-retour, parce qu'en plus, dans l'histoire du mouvement autochtone, c'est la première fois qu'on arrête un autochtone. Et c'est pire encore puisque c'est un chef autochtone, donc c'est minimiser le statut de chef, c'est de minimiser une autorité coutumière, et on parle d'autorité, quelqu'un qui a du pouvoir normalement dans son village et qui est égal à n'importe quelle autre personne qui détient un pouvoir, que ce soit un préfet, que ce soit un président de la République, s'ils sont normalement égaux. Et parce que si le président lui dit non, et si le chef il dit oui, nous on dit oui. Voilà. Donc,
c'est une humiliation, ça.
Ça a été une humiliation. Et du coup, là, ça a été vraiment un point de non-retour. Et en décembre, il y a eu un défilé d'élus politiques. Il y a eu le ministère des Outre-mer qui est arrivé. Il y a eu la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a eu qui d'autre ? Il y a eu plein d'autres élus qui sont arrivés. Et d'autres politiques qui sont arrivés en Guyane pour parler de ce projet sans forcément parler avec les principaux concernés. Et les travaux ont repris en février sans qu'on soit tenu au courant. Et du coup, la mobilisation continue jusqu'à maintenant. Il y a eu plusieurs arrestations. On parle de quotas d'arrestations maintenant dans les coulisses de la préfecture. Dans les couloirs, on dit qu'il faut un tel arrêter. Et il y a eu également pendant des années une très très grosse forte répression du village. Ils sont surveillés par des drones jusqu'à maintenant. Il y a des caméras dans les forêts pour voir où ils vont. On va taper à la porte du chef très très tard dans la nuit pour qu'il puisse dire oui. C'est beaucoup de méthodes très vicieuses et pas correctes Donc en fait, on fait face à ça. Mais encore une fois, ce qui est important également à noter dans cette lutte contre ce projet, c'est qu'on n'est pas contre le projet en lui-même, parce qu'en Guyane et surtout dans l'Ouest guyanais, on a beaucoup de soucis au niveau de l'énergie et on a besoin de cette énergie. Il n'y a pas une seule semaine où on n'a pas de blackout dans ma ville, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et voilà, on a besoin de cette énergie, on a besoin de faire développer la Guyane, mais pas à proximité de ce village. Donc en fait, le village, il s'oppose réellement à que son emplacement et pas au projet. Et ça, ce sont des choses que le public n'arrive pas à forcément comprendre.
Mais comment on peut soutenir et tenir informé de cette lutte depuis la France ?
Il faut en parler, il faut se renseigner, il faut rester également attentif et aider, il faut juste relayer l'information. Parce que les mobilisations sur le terrain, ça coûte beaucoup. Et enfin, on est quand même à 8000 km. Et le chef m'a demandé d'en parler. Donc s'il m'a demandé d'en parler, c'est pour informer. Et si vous pouvez en parler également autour, je pense que ça peut beaucoup aider.
Eh bien, merci beaucoup Clarisse. Je crois donc que tu es attendue à côté. Il y a plein d'autres questions que j'aurais aimé évoquer avec toi. Notamment la question aussi du foncier. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Oui.